France Inter. Christelle Robière.
Yael Gauz.
Le 6-9.
On l'appelle le glacier de l'Apocalypse, un mastodonte de 120 km de large sur 600 km de long situé en Antarctique. De fissures en crevasses, il menace désormais le continent. En Arctique, cette fois, le Groenland a relevé ces derniers jours des températures supérieures de 20 à 30 degrés au normal de saison. Ici, plus modestement, il suffit de sortir un peu cette semaine pour se rendre compte que le printemps dérange dangereusement l'hiver. Alors, tout cela est-il lié? Comment sauver les pôles? Quels sont les enjeux stratégiques et écologique? Yael Gauz est près de moi pour saluer nos invités. Heidi Sevestre, glaciologue et membre du Conseil de l'Arctique, bonjour.
Bonjour.
Et Mika Mered, qui enseigne la géopolitique des pôles à Sciences Po, HEC et à l'École de guerre, bonjour.
Bonjour.
Et bien sûr, on attend vos questions au 01 45 24 7000. Alors, pour commencer, y a-t-il vraiment un lien entre les trois événements météo que je viens de citer, ou est-ce un malheureux concours de circonstances, Heidi Sevestre?
Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que les régions polaires subissent de plein fouet l'œuvre de nos activités. Plus on brûle des énergies fossiles, plus on émet de gaz à effet de serre, plus le thermostat de la planète augmente. Et quand on regarde les régions polaires, les températures sont en train d'augmenter 2 à 3 à 4 fois plus vite que la moyenne planétaire. Et forcément, ces régions qui sont faites de neige et de glace sont extrêmement sensibles à ce changement de température et sont en train de réagir extrêmement rapidement à ces changements-là et nous les font subir de plein fouet.
Heidi Sevestre, vous avez passé un mois en avril dernier dans l'Arctique avec une équipe de scientifiques. À quoi ressemble ce continent aujourd'hui ?
L'Arctique, c'est vraiment une région que je connais très bien. C'est avant tout un océan qui est entouré de terre glacée, de terre gelée. La terre sur laquelle j'étais avec mon équipe, c'est le Svalbard, qui est à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Et le Svalbard, aujourd'hui, c'est vraiment le front du dérèglement climatique. C'est une terre qui se réchauffe, elle, 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. On s'attend à ce que l'Arctique devienne une terre beaucoup plus hospitalière, beaucoup plus accueillante face au dérèglement climatique. Ce qu'on a vu pendant cette expédition des Sentinelles du Climat, c'est un Arctique qu'on n'a absolument pas reconnu.
C'est-à-dire,
on voit la pollution, on la voit.
On voit la pollution, mais c'est surtout une météo qui était complètement bouleversée. On n'a eu que des extrêmes. On s'attendait à avoir moins 20, moins 30. On a eu plus 5 pendant pratiquement un mois. Des vents jusqu'à 140 km/h. Une terre complètement perturbée, une terre faite de tempêtes, une terre faite d'extrêmes. Donc à ceux qui se frottent les mains en se disant que l'Arctique va être beaucoup plus accueillant, réfléchissez-y un petit peu plus.
Donc le pôle Nord transpire en quelque sorte en ce moment?
Beaucoup plus que ça. Là, le pôle Nord est en train de changer d'état. L'Arctique est en train de perdre sa glace, d'être en pleine déglaciation.
Et pourquoi clairement vous dites que notre avenir à nous, Français, est lié à celui de ces glaces dont vous parlez?
C'est vrai qu'on n'y pense pas au quotidien, à ces glaces très lointaine, qu'elle soit en Arctique ou en Antarctique, mais finalement, notre avenir est directement lié à ce qui s'y passe. En France, si la banquise de l'Arctique disparaît, ce qui est en train d'être le cas, on est en train de tout faire pour que ça s'accélère, on va avoir des perturbations extrêmes en France, des changements de température, des changements au niveau des saisons, une agriculture qui va souffrir de cette perte de la banquise. Donc c'est très clair que notre avenir, il est directement lié à ces glaces très lointaines.
Là, je m'adresse à vous, Mika Mered. Le niveau des mers pourrait monter de combien si le glacier de l'Apocalypse dont je parlais au début s'effondre?
Ah, ça, c'est une réponse qu'on va laisser plutôt aux glaciologues. Je voudrais pas faire un crime de lèse-majesté. Non, mais évidemment, on sait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'avait déjà vu.
C'est la même chose, en fait, en Arctique et en Antarctique.
C'est pas exactement le même type de dynamique. Je vais laisser Heidi en parler, mais rapidement, d'un point de vue socio-économique et puis géopolitique, évidemment, plus on a une montée des mers, quelque chose soit de l'ordre de 50 cm ou 60 cm, comme ça pourrait être le cas avec ce glacier de Thwaites, en tout cas dans une première phase, ou peut-être à l'horizon de 200, 300, 500 ans, de plusieurs dizaines de mètres. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de toute manière, que ce soit pour notre génération ou celle de nos enfants ou nos petits-enfants, les fonds des pôles, sous tous leurs aspects, que ce soit de la glace de terre, de la glace de mer, des calottes, etc., de fait, va changer profondément nos industries, notre énergie, etc.
Mika Mered, vous, votre spécialité, c'est la géopolitique, les zones d'influence. L'Antarctique est un nouveau continent, objet de nombreuses convoitises. Il y a un traité qui régit ce territoire, le traité de l'Antarctique. Il a 60 ans, un statut particulier de territoire voué à la science et à la paix. C'est comme une copropriété de 54 nations, mais qui ne sont pas seulement intéressés par la science. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est un territoire qui va devenir une lutte d'influence pour l'occupation de certaines parties?
Oui, et je suis pas le seul, que ce soit au niveau du ministère des Armées, que ce soit au niveau du ministère de l'Économie, que ce soit sur des enjeux liés au spatial, avec un continuum Antarctique-espace, que ce soit sur des questions d'industrie de défense, etc. De fait, l'Antarctique est aujourd'hui au cœur des enjeux, pour deux raisons principales. La première, c'est que effectivement, on est dans un bien qui n'est pas un bien commun, qui n'est pas un bien de l'humanité, c'est un bien de club, géré par 54 États aujourd'hui, certains étant plutôt en première division, comme la France, étant partie consultative au traité, c'est un peu technique, mais voilà, en première division, et d'autres plutôt en seconde division, avec des dynamiques aussi qui font que de nouveaux États, avec des perspectives donc de prestige national, de développement technologique, scientifique, etc., comme là par exemple le Venezuela, comme la Turquie, comme la Malaisie, comme l'Iran, etc., qui arrivent sur ce jeu antarctique, tendent à bouleverser le jeu antarctique et à ramener aussi le discours qui est porté aujourd'hui par la Chine ou par la Russie, d'un point de vue plus légitime qu'avant, comme étant tout simplement structurel pour les années à venir.
Un territoire voué à la science et à la paix, c'est dans le traité de l'Antarctique. Est-ce que l'argument de la science, finalement, a été instrumentalisé par les grands pays ?
Oui, mais y compris la France, c'est-à-dire que de fait...
C'est-à-dire c'était une tête de pont, quoi, l'argument scientifique.
C'est-à-dire que, par exemple, on a tout à fait instrumentalisé le droit environnemental, par exemple, nous, en France, dans les années 50, quand il a fallu renforcer la souveraineté française, par exemple, sur les terres australes, que tout le monde connaît, hein, Kerguelen, Crozet, Saint-Paul-Amsterdam, ou aujourd'hui dans les îles Éparses, par exemple, ou à Clipperton. Donc c'est un sujet qui dépasse simplement les pôles et qui s'exprime dans l'ensemble des Outre-mer. Mais au-delà de cette question liée, effectivement, donc au pôle, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout ce qui peut se passer, effectivement, en Arctique ou en Antarctique, va avoir des conséquences sur d'autres territoires, que ce soit sur les littoraux français, ici, en Europe, ou que ce soit en Guadeloupe, en Polynésie et ailleurs.
Heidi Sebest, vous voulez intervenir?
Oui, il y a quand même une raison majeure pour laquelle on étudie encore l'Antarctique aujourd'hui. C'est parce que l'Antarctique est un continent qui fait quand même 27 fois la taille de la France. Et si l'Antarctique perdait toute sa glace du jour au lendemain, le niveau des océans augmenterait de 58 mètres. Vous vous rendez compte, 58 mètres. Et aujourd'hui, sur Terre, entre 0 et 10 mètres d'altitude, sur les littoraux, nous avons 700 millions de personnes qui y habitent. Ce sont les méga-cities qui se développent le plus rapidement, c'est là où on a le plus d'activité économique sur Terre. C'est pour ça qu'on étudie l'Antarctique aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'inquiète de ce qui se passe au niveau de ce fameux glacier de l'apocalypse. Parce que même si l'Antarctique perdait une fraction de sa glace, même si on parle de dizaines de centimètres ou de quelques mètres, les conséquences seraient absolument dramatiques.
Mika Meren.
En termes politiques, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle d'augmentation des températures mondiales de l'ordre de 5 degrés Celsius, bah tout simplement, cette augmentation des températures, on l'a vécu, plus 5 degrés Celsius, depuis le Pléistocène jusqu'à maintenant, donc sur les 20 000 dernières années, et ça avait occasionné une augmentation du niveau des mers de 120 mètres, ce qui nous a donné le monde qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui, avec le changement climatique, évidemment anthropocénique, donc issu de l'activité humaine, ces 5 degrés, on ne sait pas quelles conséquences ça pourrait avoir, parce que là, on ne parle pas de 20 000 ans, mais on parle simplement de 2 à 3 siècles.
Et il y a désormais un paradoxe, pôle Nord ou pôle Sud, avec le réchauffement climatique, on se dit qu'il y a de nouvelles voies maritimes qui peuvent s'ouvrir, de nouvelles exploitations de territoires moins hostiles. L'exploitation offshore d'hydrocarbures se développe au large de la Terre de Feu, aux frontières de l'Antarctique. Ainsi, on vient chercher des énergies fossiles qui vont elles-mêmes dérégler le climat et menacer en premier ce continent. C'est sans fin, c'est-à-dire qu'on a de nouveaux gisements, on veut les exploiter et on va contribuer à accélérer l'échauffement.
Oui, il y a un triple paradoxe. D'abord, ce que vous présentez, c'est tout simplement une prophétie autoréalisatrice, si vous voulez, où effectivement, on dit, il y a des ressources, il faut des ressources pour alimenter, comme Heidi l'a très bien dit, l'urbanisation, le développement de la montée des classes moyennes, par exemple, en Asie ou en Afrique, etc. Et de fait, on a besoin de ces ressources.
Donc, il y a des métaux rares... Il y a de quoi faire les batteries électriques, on va chercher ces gisements-là.
Donc là, vous allez chercher le deuxième paradoxe, effectivement, qui est que si on veut protéger les pôles en faisant une transition écologique, et puis numérique aussi, de fait, aujourd'hui, on va avoir besoin de matériaux, de métaux, que ce soit des terres rares, que ce soit du nickel, que ce soit des platinoïdes, etc., qu'on va trouver massivement dans les pôles, et en particulier en Arctique. Donc de fait, même si on veut sauver les pôles, on va devoir aller chercher des matériaux dans les pôles. Ça, c'est le deuxième paradoxe. Et le troisième paradoxe, c'est d'un point de vue politique, très court évidemment, d'un point de vue politique, et bien tout simplement aujourd'hui, si on veut faire par exemple une transition énergétique basée sur l'hydrogène, on va aller la chercher, faire de l'hydrogène vert par exemple, dans les pôles. Si on veut faire une transition énergétique en France. On va peut-être aller chercher des solutions dans les outre-mer français. Et ces outre-mer sont eux-mêmes impactés par la situation dans les pôles, etc. etc.
Heidi Seves.
Mais ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'on s'approche de points de bascule par rapport à ces glaciers que l'on trouve en Antarctique ou en Arctique. On est vraiment au pied du mur. On sait que pour éviter des conséquences permanentes, des conséquences irréversibles liées au dérèglement climatique, il faut à tout prix éviter de dépasser la barre des 1,5 degré d'augmentation de température.
On va y venir.
Là, on en est à 1,2 et on prend le plus d'élan possible pour dépasser les 1,5. Si on ne veut pas dépasser ces 1,5 degrés, il ne faut pas toucher aux réserves de gaz, de pétrole que l'on trouve en Arctique et en Antarctique. Et pourtant, on y va
trop loin. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, vous imaginez bien qu'il y a énormément de monde qui nous appelle au standard, au 01 45 24 7000, parce que ce sujet est absolument passionnant. Bonjour Jules, vous nous appelez de Grenoble.
Oui, bonjour. Merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
J'ai une question d'ordre plutôt géopolitique et je voulais savoir si la France avait les moyens de faire face à des puissances comme la Russie dans cette zone de l'Arctique face à l'ouverture des nouvelles routes maritimes qui sont engendrées par la fonte des glaces.
C'est une excellente question que vous pose Jules Micaméren.
Merci beaucoup Jules. Effectivement, alors il y a trois manières de répondre à ça. La première, c'est de dire qu'effectivement la France renforce et amplifie son engagement militaire en Arctique en particulier depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et de fait, la question de l'Arctique est tout à fait au cœur, par exemple, de la stratégie de la Marine nationale qui patrouille, par exemple, tous les trimestres aujourd'hui en zone arctique. Pareil pour l'armée de terre, pareil pour des autres corps de notre armée. Deuxième élément clé, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sans les entreprises françaises, un peu plus de 200 entreprises qui travaillent dans les pôles, par exemple la Russie n'aurait pas pu développer son Arctique, notamment sur les hydrocarbures par exemple, les infrastructures, aussi rapidement qu'elle l'a fait ces 10 dernières années. Parce que l'ingénierie française de froid ou de grand froid est très recherchée, parce qu'elle est tout simplement performante. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises françaises sont présentes effectivement en Arctique pour accélérer ce développement. Et le troisième point en termes de préparation, c'est qu'aujourd'hui, ce que beaucoup se disent, que ce soit dans les sphères politiques ou économiques, c'est que la question du développement de l'Arctique, là il faut bien faire la distinction entre le Grand Nord et le Grand Sud, le développement de l'Arctique est inéluctable, et notamment parce qu'on a besoin des métaux dont on va avoir besoin tout simplement pour la transition
pour la
écologique,
transition écologique hein.
Effectivement, et numérique aussi, ou pour développer des data centers, etc., etc., en Arctique. Donc de fait, la France se prépare, et aujourd'hui, évidemment, la France est en train de rédiger une nouvelle stratégie polaire, Arctique-Antarctique, qui normalement devrait être présentée d'ici la campagne présidentielle.
Mais avec quel poids, pour rebondir sur notre auditeur, avec quel poids pour la France par rapport à un géant chinois qui, lui, est en train de s'engager très fort vis-à-vis du Groenland? Vous parliez dans vos ouvrages de jumelage entre des villes géantes chinoises et de tout petits villages du Groenland pour avoir un soft power, une puissance sur place, négocier aussi des accès.
Expliquez-nous
est-ce
ça,
Est-ce qu'on est bien armé par rapport à des géants comme la Chine?
Alors, on est armé. Est-ce qu'on est bien armé? Ça, c'est quelque chose à laquelle la stratégie polaire nationale va essayer de répondre. On est armé. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la première des armes, Heidi en parlera aussi certainement, c'est la question de la recherche et de la connaissance scientifique. Parce que cette connaissance scientifique permet une liberté d'action, d'appréciation et de développement stratégique. Et là-dessus, la France aujourd'hui investit moins d'argent dans la recherche scientifique, dans les pôles, qu'elle n'en investissait par exemple il y a 20 ans. Donc il y a effectivement une trajectoire descendante sur cet engagement scientifique, en tout cas en termes de financement, alors que dans le même temps, d'un point de vue politique, on dit que c'est de plus en plus important. Et ce qu'il faut bien avoir en tête là-dessus, c'est que le positionnement français est simple. La France cherche à être une puissance d'équilibre dans les pôles, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Et elle en a la légitimité, parce qu'en Arctique, il y a un territoire, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est pas effectivement en Arctique, et même en dessous de la latitude de Nantes, mais qui a un climat subarctique, qui permet à la France de dire aujourd'hui, nous sommes une nation qui fait partie du jeu, au-delà de notre puissance industrielle et scientifique, et puis parce qu'il y a la légitimité en Antarctique, qui fait de la France une nation polaire avant tout. Mais aujourd'hui, pour finir en une phrase, il faut bien avoir en tête que la France est un pays qui est extraordinaire dans les pôles, parce que c'est un pays qui fait énormément en termes de recherche scientifique, de capacité de connaissance, de mobilisation, avec très 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 peu de moyens alloués.
Vous confirmez, Heidi Seves, j'imagine.
Je confirme, mais je tiens à dire aussi que la Commission européenne investit énormément dans la recherche de l'Arctique. Il y a des très très gros projets qui sont en place aujourd'hui sur le dérèglement climatique.
Alors, toujours en Arctique, et notre auditeur, il faisait allusion là tout à l'heure, Jules, à l'instant, le réchauffement climatique a ouvert une voie maritime. Le passage nord-est qui relie l'Europe à l'Asie en longeant la côte russe. Elle est encore prise dans les glaces une partie de l'année, mais elle devrait se développer. Heidi, ça vous inquiète, ça?
Bien sûr, on fait face à une région, l'Arctique, qui ne tolère pas la moindre pollution. L'Arctique aujourd'hui subit la pollution qui a été mise par les pays qui sont plus au sud. Forcément, tout est plus au sud. Mais on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'aller nettoyer une marée noire dans l'Arctique. Et c'est une question de temps avant qu'on ait une marée noire dans l'Arctique, malheureusement.
On a aussi une question d'auditeur. Vincent nous appelle de Courbevoie. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour à vous et bonjour à France Inter. Une question pour Heidi qui parlait de point de bascule tout à l'heure. Quelles seraient les conséquences de la fonte totale de la calotte glaciaire, notamment sur la circulation du courant Atlantique Nord? Et quelles seraient les conséquences d'un ralentissement, voire d'un arrêt du courant Atlantique Nord?
Très bonne question. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est vrai que les courants océaniques aujourd'hui régissent notre vie de tous les jours. Mmh. C'est eux qui nous amènent finalement des conditions relativement favorables en France.
C'est notre météo.
C'est notre météo. On sait que le courant qui arrive jusqu'en France vient du Golfe du Mexique, par exemple. Et les moteurs, les engins de ces grands courants océaniques ont besoin des pôles, ont besoin de différences de température, des eaux chaudes, des eaux très froides au niveau des pôles, ont besoin aussi de différences de salinité pour pouvoir faire fonctionner ces tapis roulants gigantesques qu'on a dans nos océans. Le problème, c'est que les pôles sont en train de se désintégrer, sont en train de fondre extrêmement rapidement, amenant de l'eau douce dans ces engins, perturbant les températures, les écarts de température, et ainsi, on remarque de grands courants océaniques, comme ce qu'on appelle le hammock, donc le plus grand tapis roulant qu'on trouve dans les océans, est en train de ralentir. Alors, les conséquences chez nous en France d'un arrêt, alors là, je parle d'une situation un peu d'un arrêt de ce courant océanique, ce serait un bouleversement total des conditions dans l'hémisphère nord, notamment un refroidissement. Mais pourtant, aujourd'hui, on sait que le réchauffement est beaucoup plus rapide que ces changements au niveau des courants océaniques. Donc il ne faut pas penser que finalement, tout va s'équilibrer et puis par un coup de baguette magique, tout va revenir à la normale.
Il y a aussi une question de Nathalie. Elle demande, peut-on craindre l'émergence de virus pathogènes du fait de la fonte du permafrost ?
Tout à fait. Malheureusement, le permafrost, qui est ce sol gelé en permanence, qui recouvre un quart des terres de l'hémisphère nord, est lui aussi en train de dégeler à cause des changements de température.
Non, vous nous remontez bien le moral. Et...
Alors, on n'amène jamais de bonnes nouvelles quand on parle de la cryosphère, de la glaciologie, mais ce sont des nouvelles extrêmement importantes, bien sûr. Et c'est vrai que ce permafrost, il contient énormément de matière organique. Vous savez bien, les mammouths que l'on trouve de temps en temps en Sibérie à cause du dégel. On trouve aussi énormément de microbes, de virus, de bactéries qui ressortent du permafrost, du pergélisol, à cause du dégel. Et il y a déjà eu justement des maladies en Sibérie qui ont été redécouvertes, comme de l'anthrax, à cause du dégel du permafrost.
La presse économique américaine, notamment, souvent se félicite de ces nouvelles voies maritimes, de cet espoir économique de croissance nouvelle soulevée par cet Arctique qui s'ouvre au commerce. Est-ce que pour vous, le pôle Nord est vraiment un nouvel Eldorado économique ?
Pour nous, c'est assez simple. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de travail sur une planète morte. C'est aussi simple que ça.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et dans le même temps, ce qui se passe aujourd'hui dans le présent, c'est que l'Arctique, c'est 4 millions d'habitants. Donc, c'est 0,05% de la population mondiale. Et pourtant, ces 0,05% de la population mondiale sont aujourd'hui hôtes, si vous le voulez, de un tiers des métaux rares et des métaux critiques dont on va avoir besoin effectivement pour les transitions qu'on a évoquées. C'est 40%, l'Arctique, c'est 40% de la production mondiale de saumon d'élevage, c'est 10% de la production d'aluminium, c'est 12% de la pêche mondiale. Donc c'est déjà sur la carte. Et pour l'Antarctique aussi. C'est-à-dire que si on prend par exemple un territoire comme la Réunion, la pêche dans les eaux australes et antarctiques, ça représente 75% des prises et de la valeur à la Réunion.
C'est déjà trop tard pour protéger ces territoires ?
Alors, il n'est jamais trop tard pour protéger ces territoires. Surtout, c'est important de créer des aires marines protégées. Oui. Mais les aires marines protégées ne vont pas arrêter le dérèglement climatique, ne vont pas arrêter l'acidification des eaux polaires. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que l'océan glacial arctique et l'océan austral autour de l'Antarctique, ce sont les océans qui absorbent le plus nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc, ils nous rendent un grand service. Oui. Le problème, c'est qu'en absorbant le CO2, ces eaux s'acidifient. Et on n'a jamais eu une acidification aussi rapide, aussi prononcée des océans polaires. On parle des ressources halieutiques. Elles prennent de plein fouet cette augmentation de température, cette acidification des eaux. On a la base de la chaîne alimentaire sous-marine qui est en train d'être attaquée par des eaux corrosives que l'on trouve dans ces régions polaires.
Une nouvelle question au standard de France Inter. Bonjour Frédéric, vous nous appelez de Pau.
Voilà, bonjour à tous. Difficile d'être optimiste à vous écouter, hein, quand on sait qu'on n'a pas su renoncer à la 5G, mais je voulais vous poser une question un peu iconoclaste, c'est qu'il n'est pas de bon ton de nous poser. Ça concerne la surpopulation, hein. On a été multiplié par 5 en un siècle. J'aimerais savoir si pour vous c'est un facteur essentiel, neutre ou inintéressant.
Mika Meren.
Alors, très simplement, si on fait une analyse socio-économique et politique du changement climatique, il faut partir d'une équation simple, qui n'est pas parfaite, mais qui permet à tout le monde de bien comprendre de quoi il s'agit, c'est l'équation de Kaya, K-A-Y-A, ça vous permettra de voir ce qu'il en est. L'équation de Kaya, il y a 4 facteurs dedans, donc c'est CO2 égal, et le premier facteur, c'est la population que vous avez évoquée, parce qu'effectivement, plus il y a de population, plus il y a de besoins, plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre en général. Le deuxième facteur, c'est la richesse, tout simplement, produit le PIB par habitant au niveau mondial. Le troisième facteur, c'est l'intensité énergétique, c'est-à-dire combien d'énergie on a besoin pour produire une unité de richesse. Et le quatrième facteur, c'est l'intensité carbone. Combien de carbone a-t-on besoin pour produire une unité énergétique? Et si on prend ces 4 facteurs-là, on a les 4 facteurs sur lesquels les politiques, les industriels, les investisseurs, etc. peuvent agir ou pas, évidemment, ils peuvent décider de ne rien faire. Parce que c'est en jouant sur une combinaison de ces différents facteurs qu'on va pouvoir effectivement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et là-dessus, si vous me permettez en une phrase d'apporter quand même une partie de bonne nouvelle, parce qu'on est quand même le 29 décembre et on ne va pas vous dire qu'en 2022, voilà, on va tous crever.
on va attendre un petit peu.
Exactement, le plus longtemps possible, espérons-le. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en Arctique se joue peut-être l'un de mes 3 paradoxes de tout à l'heure, peut-être une partie de la solution également. Typiquement, j'ai la chance de travailler à la chaire Outre-mer de Sciences Po sur la question des Outre-mer, et évidemment en Arctique sur l'hydrogène vert. Oui. Ce potentiel de développement est assez intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Arctique, parce que il y a des potentiels de développement donc de ce vecteur d'énergie qu'est l'hydrogène, qui sont relativement verts, décarbonés. On peut se dire que l'Arctique peut être une partie de la solution. Mais encore une fois, c'est un jeu d'équilibriste, puisque plus on va exploiter l'Arctique, même pour faire de l'hydrogène vert, et plus on va avoir une forme d'impact.
Heidi Sévestre, vous aviez une petite grimace derrière le masque.
Rapidement, je voudrais revenir sur cette question de surpopulation. Je suis d'accord avec ce que Mico vient de dire, bien sûr, mais il faut savoir aussi que les 1% les plus riches de la planète émettent plus que les 50% les plus pauvres sur Terre. Donc on n'est pas tous égaux face à nos émissions de gaz à effet de serre. Et en parlant de solutions, la première solution dont je parle souvent, c'est d'oser chacun calculer sa propre empreinte carbone. Mmh. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour la calculer, la mienne, parce que je sais que je voyage beaucoup à cause de mon travail.
C'est combien alors ?
Il faut tout faire pour arriver à 2 tonnes par an par habitant en France. Mmh. Aujourd'hui, en France, en moyenne, on est autour de 10-12 tonnes par an.
D'accord, ça veut dire que, par exemple, si j'ai une voiture et que je prends l'avion une fois dans l'année...
Vous êtes saqué.
Ça dépend.
C'est trop.
Après, faut voir quel secteur de notre empreinte carbone est-ce qu'on peut améliorer. Et tout à chacun, on peut faire au moins une chose pour améliorer notre empreinte carbone, que ce soit les transports, que ce soit la nourriture qu'on mange, les vêtements qu'on achète.
C'est un élément clé de la campagne présidentielle qui va arriver ici en France, oui, comme on l'a vu ailleurs, même en Russie, hein, pensez-y, hein. Il n'y a pas que chez nous. Il y a la question évidemment de la décroissance qui est de plus en plus populaire, ou en tout cas qui est dans le débat. Il y a la question de l'écosuffisance, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir consommer en fonction de nos besoins réels, savoir identifier ce qui est superflu, ce qui est superfétatoire dans nos économies ou dans notre consommation. C'est un élément clé et c'est sur ça que Heidi évidemment travaille beaucoup dans son organisation, c'est cette dimension de tout simplement sobriété. La meilleure énergie, c'est évidemment celle qu'on consomme pas, c'est celle qu'on produit pas.
Vous interpellez les candidats futurs ou actuels à la présidentielle sur cette question des pôles. On peut parler des pôles dans la présidentielle, il faut en parler.
C'est un sujet qui devrait absolument dominer les débats pour la présidentielle. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas quotidiennement, évidemment, puisque notre futur est directement lié à ces glaces, directement lié à ces régions polaires. Mais aujourd'hui, ce sujet devrait absolument dominer les médias. Quand on montre qu'il fait 20 degrés au mois de décembre et qu'on montre des images de plages et de gens qui courent heureux face à ces conditions, non, il faut arrêter de montrer le dérèglement climatique sous cet aspect-là. On fait face à une crise qui est absolue, à une urgence totale. Et ce sujet devrait, encore une fois, dominer les enjeux pour cette présidentielle.
Vous avez été déçu par les résultats de la COP26 ?
C'est difficile d'être heureux, de ne pas être frustré à la fin de ces conférences sur le climat. On a fait beaucoup de progrès, on n'y est pas encore, on est très très loin du compte.
Mais justement, le compte manquait sur le pétrole notamment.
Sur le charbon, voilà, il y avait eu un gros souci sur le charbon. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend toutes ces annonces qui ont été faites à la COP26, on arrive à une augmentation de température au-delà des 2 degrés. Donc, c'est-à-dire que l'on dépasse très largement ces seuils de température qui nous amènent à ces points de bascule, à ces conséquences irréversibles et permanentes.
Il y a encore une question de Lucie, hein, qui nous a envoyé un petit mot. Un glacier peut-il se reconstituer si l'on met un gros coup d'arrêt à nos émissions de gaz à effet de serre ?
Alors merci Lucie pour cette question. Pour le Groenland et l'Antarctique, non. Il faudrait revenir à une période glaciaire finalement pour que ces calottes puissent se reconstituer. Mais encore une fois, pour éviter l'effet domino, pour éviter des cercles vicieux que l'on ne peut plus arrêter, il ne faut surtout pas dépasser ces 1,5 degrés. On peut aujourd'hui agir si on agit dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine, dès le mois prochain, si on agit maintenant.
Chacun d'entre nous.
On peut éviter de dépasser les 1,5 degrés. Ce sont nos actions. C'est aussi l'action du gouvernement.
On peut sauver le glacier de l'apocalypse. On peut le sauver encore.
Là, on en est à quelques années, on peut encore le sauver, mais c'est très juste. Ouais.
Mika Mered, pour conclure.
Très, très simplement, c'est un enjeu qui devrait effectivement dominer les débats. Alors peut-être que c'est très technique, peut-être qu'effectivement, comme c'est plutôt un lot de mauvaises nouvelles, ça fait peut-être pas envie d'en discuter. Merci à vous de nous avoir invités pour en parler. De fait, ce qu'on va essayer de faire sur les prochains mois, c'est tout simplement de porter peut-être aussi un champ de solutions autour des pôles. Aller voir ce qui se passe au Groenland, outre-mer danois, en Alaska, outre-mer américain et ailleurs, pour voir aussi comment eux, les peuples locaux, s'adaptent à cette situation et développe peut-être de nouvelles solutions qu'on pourrait importer chez nous, en tout cas, dont on pourrait s'inspirer.
Voilà, on va finir sur une note positive. Merci Heidi Sevestre, merci beaucoup Mika Mered, c'était passionnant. France Inter.